L'organisation État islamique revendique la prise d'otage qui s'est déroulée ce matin dans l'Aude, à Trèbes, à proximité de Carcassonne. 3 personnes ont été tuées avant et pendant cette prise d'otage qui s'est déroulée dans un supermarché. L'auteur, identifié comme un petit délinquant de nationalité franco-marocaine, a été abattu dans l'assaut du GIGN. On fait un point sur le déroulé de ces événements dans un instant avec Mathilde Lemaire. Avec Tarash Legal, on s'intéressera au profil de l'agresseur. Et puis invité de ce journal, Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. La fin du sommet européen à Bruxelles, où il a beaucoup été question de Brexit et notamment de la frontière irlandaise qui empoisonne les négociations. Pierre Benazé sera avec nous dans ce journal. L'enquête de cette édition, signée ce soir Benoît Colomba, est centrée sur Alexandre Djouri, personnage central dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Un mort à Carcassonne, tué par balle dans la voiture qu'il occupait, puis 2 autres victimes à Trèbes, abattues dans un supermarché. 5 blessés au total, dont un est grièvement touché. C'est le bilan de 3 attaques menées aujourd'hui dans le sud de la France, à Carcassonne et quelques kilomètres plus loin à Trèbes. Attaque menée par un jeune délinquant tel qu'il a été identifié par le ministre de l'Intérieur. On va y revenir. Il a agi seul et a été abattu après avoir, pendant près de 5 heures, semé la terreur. Retour sur ce qui est considéré par le gouvernement comme des actes de terrorisme avec Mathilde Lemaire.
D'abord, en début de matinée, le terroriste a commencé par tuer le passager d'une voiture qu'il a braquée. Il a aussi blessé le conducteur. Ça s'est passé dans un quartier de Carcassonne. Ensuite, vers 10h30, l'homme attaque 4 CRS en civil qui font leur footing dans le centre-ville de Carcassonne. Il tire à 5 reprises avec une arme de poing et blesse un des policiers, originaire de Marseille, mais affecté en ce moment à la CRS 57 de Carcassonne. Il a eu le poumon perforé. Troisième événement, la prise d'otage, donc dans le Super U de Trèbes, à 8 km de Carcassonne. C'était vers 11h, prise d'otage qui a duré 3h45. C'est au moment où ils tirent que les gendarmes du GIGN ont lancé l'assaut et abattu Redouane Lakhdim. Prise d'otage meurtrière au cours de laquelle 2 personnes donc sont décédées, dont un employé de la grande surface.
Vous êtes bien sur France Culture, 18h03. La suite de cette édition. On revient donc sur l'information principale de la journée, cette triple attaque terroriste dans le sud de la France, du côté de Carcassonne. Depuis une heure environ sur cette question, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont au ministère de l'Intérieur pour un point de situation autour de la cellule interministérielle de crise montée autour de ces attaques de Carcassonne et de Trèbes. Pendant que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lui, est toujours sur les lieux, il s'y est rendu dans le début de l'après-midi. De manière assez inédite, il a révélé l'identité de l'assaillant quelques minutes seulement après l'assaut du GIGN. Bonsoir Tarash Legal.
Oui, bonsoir Benoît.
L'auteur de cette triple attaque à Carcassonne et dans les environs a donc été identifié comme étant Redouane Lakhdim, 25 ans, petit délinquant d'après Gérard Collomb, suivi un temps pour radicalisation.
Oui, effectivement. Alors, les informations sont encore partiales. On peut au moins accorder un crédit à celle donnée par le ministre. Vous l'avez dit, qui s'est rendu dans l'Aude. Redouane Lakhdim, né en avril 92, était connu comme un petit délinquant, petit dealer, a même dit le ministre. Plusieurs médias, eux, parlent d'un séjour en prison bref en 2016. Nous l'avions suivi, a dit Gérard Collomb. Nous pensions qu'il n'y avait pas de radicalisation, mais il est passé à l'acte brutalement. Voilà pour la version du ministre qui ajoute que Redouane Lakhdim a agi seul.
Et certains médias, Tara, affirment aujourd'hui qu'il était fiché.
Alors effectivement, BFM TV a parlé d'une fiche S. Il semblerait plutôt, d'après France Info, que l'homme était inscrit au FSPRT, donc au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Un fichier créé en mars 2015, assez peu connu, qui contiendrait des milliers de noms. Combien exactement? Eh bien, d'après un article publié dans Libération, il y aurait plusieurs strates dans ce fichier, qui est réservé, contrairement au fichier S, aux seuls individus suspects donc de radicalisation. Il y aurait le haut du panier, environ 4000 noms, disait alors à Libération Olivier de Mazières, le chef d'état-major opérationnel de prévention du terrorisme. 4000 individus particulièrement surveillés par la DGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. À ces islamistes s'ajoutent environ 8000 personnes suivies cette fois par le service central du renseignement territorial. En tout, ces 12000 individus constituent les profils dits actifs au sein de ce fichier. Et il y aurait encore peut-être 6 à 7000 personnes signalées par les services service, mais qui ne suscite plus d'inquiétude. D'après France Info, Benoît, Redouane Lagdim était donc fiché FSPRT et suivi par la CGSI. Il aurait donc effectivement été considéré comme dangereux. Plusieurs médias ajoutent qu'il a peut-être effectué un séjour en Syrie. C'est encore à vérifier, bien sûr.
Merci beaucoup, Tara Schlegel. Les réactions politiques à cette triple attaque, elles sont évidemment déjà très nombreuses. Toutes saluent l'action et le courage des forces de l'ordre et certaines s'interrogent déjà sur le profil de l'assaillant dont on vient de parler. Pour Bruno Retailleau, par exemple, président du groupe Les Républicains au Sénat, le terrorisme qui nous menace, c'est celui des délinquants de droit commun qui basculent dans le fanatisme. Ne pas prendre en compte ces réalités serait une folie. Fin de citation. Nous sommes en ligne avec Éric Dénessé, invité de ce journal. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors on voit évidemment venir déjà le débat, la polémique autour du suivi des personnes suspectées de radicalisation. Dans le cas présent, le fait que l'auteur de cette attaque ait été au moins repéré, c'est plutôt le signe d'un échec du renseignement ou on peut dire qu'au moins les services ont fait leur boulot ?
Non, c'est au contraire une nouvelle fois l'illustration que les services ont parfaitement identifié tous les personnels dangereux qui ont fréquenté des mosquées radicales ou pourraient être un jour tentés de passer à l'action. Mais vu que nous sommes dans un état de droit, on ne peut pas arrêter ceux qui ne sont pas encore passés à l'acte, c'est-à-dire qui ont commis un crime au titre du code pénal. Le système est relativement bien fait. Généralement, on surveille les plus dangereux et puis dans le lot, vous savez, c'est comme un tueur en série dont on ne peut pas prévoir les actes. Et bien parmi ces 10, 12 ou 16 000 djihadistes potentiels n'ayant pas commis de crime, eh bien certains passent à l'action et bien sûr ça donne cet effet terrible.
Côté terroriste, vous pensez que cette action relève d'une stratégie, celle de ne pas laisser de trop longues périodes sans attentat en France ou on a affaire au profil, peut-être le profil type du djihadiste qui passe à l'attaque quand bon lui semble, le terroriste djihadiste un peu pied nickelé?
Alors malheureusement oui, là on a affaire à un schéma tout à fait classique. Daesh, avant de disparaître, de perdre son territoire en Syrie et en Irak, avait lancé donc ses appels à déclencher des opérations en France qui ont été très infructueux jusque-là. Et puis de temps en temps, il y a effectivement un individu qui sort du lot, qui frappe quand il peut ou quand il le décide lui-même. Bien sûr, ces actes sont terribles, mais il faut quand même relever que la rapidité à laquelle les forces de l'ordre sont intervenus et l'ont éliminé avant qu'ils ne commettent des massacres plus importants.
Sur cette revendication de l'État islamique ou de ce qu'il en reste, ça indique quoi, Éric Dénessé, que les structures internationales de l'organisation fonctionnent encore relativement rapidement puisque la revendication est arrivée très très vite?
Bien sûr, parce qu'ils suivent énormément les réseaux sociaux, parce que peut-être les jours prochains vont permettre de déterminer s'il y a eu un lien de commandite entre Daesh et le terroriste. Néanmoins, vous savez, même si Daesh disparaissait, même si Al-Qaïda disparaissait, il serait remplacé par des groupes peut-être plus petits, des micro-groupes, et il y aurait toujours, en contexte actuel, des individus qui relèvent souvent, il faut le dire, d'une pathologie de type psychiatrique qui gèrent leur frustration en se réfugiant dans un islam radical qui n'a rien à voir avec la religion et qui se livre à des actes barbares comme on vient encore de le voir.
Merci beaucoup Éric Dénessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette triple attaque terroriste ce matin et en début d'après-midi en France, à Carcassonne puis à Trèbes, attaque qui a fait, d'après le bilan officiel en cette fin de soirée, 3 morts et 5 blessés dont un se trouve dans un état grave. Toujours en matière de terrorisme, à Londres aujourd'hui, l'auteur de l'attaque de la station de métro Parsons Green, qui avait fait une cinquantaine de blessés en septembre dernier, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 34 ans. Les contestations sociales qu'a connues la France cette semaine ne sont pas de nature à modifier les engagements qui ont été pris pendant la campagne l'an dernier. Déclaration volontairement polémique tout à l'heure d'Emmanuel Macron à Bruxelles. Le chef de l'État s'exprimait en marge du sommet européen des chefs d'État et de gouvernement des 27. Un sommet qui aura été marqué par nombre de questions internationales et notamment par les questions sur la poursuite des négociations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. sur le Brexit. Bonsoir Pierre Benazé.
Bonsoir.
Notre correspondant permanent à Bruxelles. Ce qui a mobilisé une nouvelle fois les chefs d'État pendant ce sommet, c'est notamment la question sur laquelle ils n'arrivent pas finalement à avancer avec Londres. C'est la question de la frontière terrestre entre Irlande et Irlande du Nord. Elle est très épineuse.
Effectivement, très épineuse. Et pour mettre cette négociation en perspective, mettons-nous en tête cette date, le 10 avril 98, c'est le jour où ont été signés les accords du Vendredi Saint. C'est la pierre angulaire sur laquelle sont construites les relations intra-irlandaises. Et ces accords stipulent expressément que la frontière de entre l'Ulster et la République doit rester ouverte. Le but de tous les négociateurs, c'est de ne pas mettre en danger les accords du Vendredi Saint. Et du coup, cette pierre angulaire devient aussi aujourd'hui la pierre d'achoppement de ces négociations. Sur les trois priorités initiales de l'UE, outre l'Irlande, figuraient la question financière et la garantie à long terme des droits des citoyens. Ces deux questions sont réglées par les lignes directrices adoptées à Bruxelles. Et la question irlandaise a trouvé une sorte de solution temporaire qui pourrait bien être appelée à durer. En l'absence de solution innovante, et pour l'instant ça relève de la quadrature du cercle, le Royaume-Uni a accepté la solution de repli avancée par l'Union européenne, un espace réglementaire commun. Pour caricaturer, c'est le maintien de l'Irlande du Nord dans l'Union douanière et le marché unique européen. On peut dire que Theresa May a mangé son chapeau en acceptant ce protocole, car c'est justement le scénario ONI de ses alliés du DUP, le parti unioniste d'Ulster, qui refuse de voir un traitement différent entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Pour le DUP, le Royaume-Uni doit quitter totalement l'Union européenne dans son ensemble, une position ultra-minoritaire puisqu'elle remettrait en question les accords du Vendredi Saint dont on fêtera les 20 ans à Pâques, mais une position qui promet de vives tensions au sein de la coalition gouvernementale de Theresa May, ce qui n'est pas de bon augure pour la négociation à venir sur le futur accord qui régira les relations euro-britanniques.
Affaire à suivre, merci beaucoup Pierre Benazé. Il a aussi été question de commerce international lors de ce sommet à Bruxelles et l'Organisation mondiale du commerce se dit très alarmée dans sa dernière communication cet après-midi. Depuis son siège de Genève, elle dit craindre une mise en péril de l'économie mondiale. C'est évidemment les suites des menaces de guerre douanière dont les déclarations de Donald Trump ont été les prémices le mois dernier à propos des importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Bonsoir Bénédicte Robin.
Bonsoir Benoît, bonsoir à tous.
Si pour l'instant l'Union européenne a été épargnée par l'envolée des droits de douane aux USA, tout comme le Canada et le Mexique, la Chine, elle, semble bel et bien dans le collimateur de l'administration Trump.
Même si la Chine reste un pays ami dans la bouche du président américain. Mais voilà, ça n'a pas empêché de poser son ultimatum, 60 milliards de dollars de taxes douanières, environ 48 milliards et demi d'euros. Cela reste pour l'instant une mise en garde. L'administration américaine a 15 jours pour établir une liste de produits concernés. Ensuite, un dialogue doit s'ouvrir avec la Chine. Mais la Chine n'a pas attendu pour riposter sur le même ton en publiant une liste de 128 produits américains qui feront l'objet de surtaxes en cas d'échec de négociation. 128 produits comme le vin, les fruits, la viande de porc, mais pas le soja que la Chine importe en très grande quantité. Ce qui montre bien la prudence de la réponse. Les États-Unis tentent surtout d'imposer un rythme pour des négociations sur un autre enjeu, celui de la propriété intellectuelle. Washington conteste depuis longtemps le système de co-entreprise instauré par Pékin et qui impose aux entreprises étrangères de partager leur savoir-faire technologique en échange de l'accès à son marché. Pour arbitrer tout cela, il y aura l'OMC. Chacune des deux parties a fait appel. L'Organisation mondiale du commerce s'en félicite d'ailleurs, car elle s'inquiète, vous l'avez dit, d'une possible déstabilisation de l'économie mondiale en cas de guerre déclarée. Une guerre à laquelle se prépare aussi l'Union européenne. Même si elle est en sursis jusqu'au 1er mai, elle est tout autant visée par les menaces américaines. En marge du sommet européen, les dirigeants, dont Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel d'une même voix, ont prévenu qu'ils se réservaient toujours le droit de répliquer en cas d'attaque concrète. En attendant, des premières discussions sont prévues la semaine prochaine.
Merci beaucoup Bénédicte Robin. La biodiversité, partout attaquée, partout en recul, le constat n'est pas nouveau, mais les niveaux d'atteinte sont de plus en plus impressionnants. La mesure des dégâts causés par l'activité humaine de plus en plus inquiétante. D'autant que la menace touche désormais très directement les ressources en nourriture, en eau potable et en énergie. C'est ce que souligne un rapport publié aujourd'hui par un groupe d'experts internationaux soutenu par les Nations Unies. Bonsoir Eva Jednak.
Bonsoir.
550 experts mandatés par 129 États se sont réunis en Colombie. Et il dresse un tableau très sombre de l'avenir de l'humanité.
La Terre fait face à une extinction massive de ses espèces, la première depuis la disparition des dinosaures et la première donc à cause des activités humaines. Pour affirmer cela, les experts s'appuient sur des milliers de sources collectées pendant 3 ans aux 4 coins du globe. Ils sont arrivés à la conclusion qu'en moyenne, depuis un siècle, chaque année, ce sont 2 espèces de vertébrés qui disparaissent. Surpêche, pollution, agriculture intensive, les raisons sont multiples et presque toujours impuissantes. imputable à l'homme. On en a encore eu l'illustration en début de semaine au Kenya avec la mort du dernier mâle rhinocéros blanc décimé par le braconnage. En Asie, la surpêche et la pollution sont telles que la ressource en poissons pourrait être épuisée dans l'océan Pacifique d'ici 30 ans. Et c'est là que veulent insister les scientifiques. En négligeant autant la planète, l'homme menace aussi son propre bien-être. Le déclin de la biodiversité met en danger à plus ou moins long terme les économies, les moyens d'existence, la sécurité alimentaire et la qualité de vie des populations. Il y a quand même une bonne nouvelle selon les scientifiques, c'est qu'il n'est pas trop tard pour agir. Ils ont soigneusement compilé leurs données dans des synthèses à l'intention des décideurs avec des préconisations. Parmi elles, créer davantage d'aires protégées, restaurer les zones dégradées ou développer l'agriculture durable. Cependant, il n'y a pas de certitude quant à l'application de telles mesures. Ce ne sont que des recommandations sans aucune valeur contraignante.
Merci beaucoup Eva Jednak. Il est 18h16, vous écoutez le journal de France Culture et nous en arrivons à l'enquête de cette édition qui nous propose aujourd'hui un retour sur les soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2017, financement par le pouvoir libyen et le colonel Kadhafi. Bonsoir Benoît Colomba.
Bonsoir.
Du service investigation de Radio France, cette affaire de financement libyen sur la campagne de 2007, évidemment, a conduit cette semaine à la mise en examen de l'ancien président de la République. Mais cette affaire, et c'est ce que vous nous expliquez ce soir, Benoît, est loin d'être terminée.
Oui, parce que plusieurs témoins clés doivent encore être entendus par les magistrats. Et le premier d'entre eux, c'est Alexandre Djouri, un ancien petit caïd de banlieue qu'on retrouve dans les cercles du pouvoir et le monde des affaires. Dans les années 90, il est au service de la Chiraki avant de rallier Nicolas Sarkozy qui devient son ami.
Et cette proximité entre l'ancien président de la République et cet ex-petit caïd que vous venez de décrire, Benoît, elle apparaît dans l'enquête libyenne.
Oui, parce que Alexandre Djouri a été placé sur écoute par les juges. Il était régulièrement au téléphone avec Nicolas Sarkozy et notamment pour faire avancer ses affaires. Comme le 20 janvier 2015, Djouri est à Moscou avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin et lorsqu'il a Nicolas Sarkozy au téléphone, voilà ce qu'il lui demande. Nous avons retranscrit leur conversation.
Oui, allô ?
Alexandre ?
Ah Nicolas, bah ça me fait plaisir de t'entendre.
Qu'est-ce que vous faites à Moscou ?
Ah bah faut qu'on essaye de gagner du pognon quand même, on travaille à l'attaque, qu'est-ce que tu crois ?
Bon allez, je t'embrasse.
Hey Nicolas, demain tu peux nous passer un coup de fil toi pour éventuellement qu'on voit Poutine un peu plus rapidement au lieu qu'on poirote ?
Parlons-en demain hein.
Ok.
Je t'embrasse.
Je t'embrasse, bye, à demain.
Alors cet Alexandre Djouri, quel rôle aurait-il joué dans cette affaire libyenne ?
Eh bien pour les enquêteurs, il serait au cœur de montages financiers entre la France et la Libye de Kadhafi. Jusqu'ici, les juges n'ont pas réussi à l'entendre. Djouri évitait soigneusement la France, mais il a finalement été arrêté à Londres en janvier dernier, ce qui rend donc désormais possible son audition. Et ça fait trembler une partie de la droite française, explique le journaliste Pierre Péan, qui a longuement enquêté sur Alexandre Djouri.
Il n'a pas travaillé que dans le système Sarkozy. Avant, il était totalement dans le système Chirac, évidemment. Et donc, il y a quand même des gens qui doivent être inquiets. Parce que lui, il sait pour qui il a travaillé, dans les grands contrats, qui lui a demandé, pourquoi, comment, où l'argent a été, tout ça. Lui, il sait tout ça. Donc, la seule question qui est intéressante, c'est de savoir s'il va vraiment parler. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent mal dormir.
Voilà, mais Alexandre Djouri n'est pas le seul témoin que les juges veulent entendre, il y en a un autre, libyen.
Oui, un proche de Kadhafi, il s'appelle Béchir Saleh, il était le directeur de cabinet, le grand argentier de Kadhafi. Après la mort du guide libyen, il trouve refuge en France avant d'être exfiltré en Afrique dans des conditions rocambolesques, alors qu'il est recherché par Interpol, exfiltré par Alexandre Djouri, dont on vient de parler, sous les yeux du patron du renseignement intérieur, proche de Nicolas Sarkozy.
Ce qui veut dire que ce Béchir Saleh aurait bénéficié de protection.
Oui, et c'est notamment pour ça que les juges veulent l'entendre. Il est sans doute celui qui connaît le mieux les secrets de Kadhafi. Mais pour son avocat français, Éric Moutet, il ne faut pas attendre de lui un grand déballage.
Sa vérité, ça a toujours été la même à ce jour. Il est possible que ça ait eu lieu. Mais
un financement politique.
Un financement politique, mais en ce qui le concerne, il n'a pas été approché, touché et il n'en a pas eu connaissance. Il ne dit pas « ça n'a pas existé ». Vous savez, des chefs d'État du calibre de Kadhafi ont tendance à cloisonner aussi un certain nombre de choses. Donc il est tout à fait possible que ça ait pu se produire à l'insu du plein gré de Béchir Saleh.
En tout cas, Béchir Saleh n'est pas prêt à témoigner tout de suite dans ce dossier décidément hors norme. L'ancien homme clé du régime de Kadhafi s'est fait tirer dessus il y a quelques semaines à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il s'en est sorti miraculeusement. Pour ses proches, il s'agit clairement d'une tentative d'assassinat.
Merci Benoît Colomba. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Je vous rappelle la principale information de ce journal est cette attaque terroriste à Carcassonne et à Trèbes dans l'Aude. Entre 10h ce matin et 15h en début d'après-midi, un homme de 25 ans a tué 3 personnes et en a blessé 5 autres. Nous y reviendrons évidemment dans notre journal de 22h qui sera présenté par Mathieu Laurent. À l'instant, Emmanuel Macron déclare que la France a subi une attaque terroriste islamiste. La météo pour demain, un temps toujours perturbé et des températures stables sur l'ensemble de la métropole.